Das Krucia Europei.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Quelle relation l'Union européenne, la plus grande entité démocratique au monde, peut-elle établir avec la Chine, la plus grande et la plus puissante dictature de la planète? Le 30 décembre dernier, l'Union européenne a signé avec Pékin un accord de principe facilitant les investissements en échange d'engagements guère contraignants pour la Chine de respecter les conventions internationales contre le travail forcé. Cet accord, immédiatement contesté notamment au Parlement européen, est aussi un pied de nez au tout nouveau président américain Joe Biden, qui espère conduire une coalition des démocraties face à l'autoritarisme conquérant de la Chine. Entre les États-Unis et la Chine, plus que jamais, l'Europe cherche sa place. Je vous présente les invités qui nous auront joints tantôt dans le studio 51 de RFI, mais aussi par téléphone, Covid-19 oblige. Bonjour Philippe Lecor.
Bonjour Daniel Desexcal.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'ESSEC, la grande école de commerce de Cergy, et à la Harvard Kennedy School, et aussi à la FRS, c'est la Fondation pour la Recherche Scientifique. Merci d'être à mes côtés dans ce studio 51. Daniela Scherzer, bonjour, guten Tag.
Bonjour Daniel.
Vous êtes la directrice de la DGAP. Alors comme à chaque fois, je me lance, hein, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Je sais que je l'ai mal dit, mais vous allez bien le traduire en français.
Oui, c'est l'Institut allemand des affaires internationales et c'était assez bien ce que vous avez dit.
Oh, merci. Bon, le compliment, il me bat droit au cœur. Merci en tout cas à vous d'être en ligne de Berlin. Marc Julienne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur responsable des activités Chine au Centre Asie de l'IFRI. L'IFRI, c'est bien sûr l'Institut français des relations internationales. Alors vous êtes à Paris, non loin, mais malheureusement par téléphone. Et puis, Long Zhang, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en civilisation chinoise à l'université de Cergy-Pontoise et professeur invité à la Harvard University. Votre dernier livre, La Chine désorientée, est paru aux éditions ECLM. Bon, on va voir et vous allez nous dire si la Chine est si désorientée que ça. Et puis, comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International ce dimanche avec Sacha Mitchell. Alors, Philippe Lecor, était-il urgent de signer le 30 décembre dernier, c'est-à-dire entre deux réveillons, cet accord de principe facilitant les investissements des uns et des autres sur leurs marchés respectifs, avec à la clé un engagement peu contraignant pour la Chine de respecter les conventions internationales sur le travail forcé, le tout après une année marquée par les mensonges de Pékin sur les origines du coronavirus, la féroce répression à Hong Kong, les tensions croissantes en mer de Chine, notamment à l'égard de Taïwan, et puis dernièrement les révélations terribles sur le travail forcé des Ouïghours dans la province du Xinjiang. Est-ce qu'il y avait urgence à signer cet accord ?
Eh bien, du point de vue de la Commission européenne et de la présidence allemande du Conseil européen, puisqu'elle se terminait le 31 décembre 2020, sous la présidence de la chancelière Merkel, qui elle-même va prendre sa retraite, nous dit-on, en septembre prochain après les élections générales allemandes, oui. C'est-à-dire que après 7 années de négociations et 35 rounds d'échanges entre responsables, alors ce sont des responsables techniques, de la DG Commerce, de la Commission et des interlocuteurs chinois, il était temps peut-être de finaliser. Mais en même temps, c'est vrai que Bruxelles et la Commission ne nous a pas habitués à signer des accords aussi importants entre deux réveillons, comme vous dites. Et surtout, 3 semaines avant l'inauguration d'un nouveau président américain, dont l'administration va forcément détonner par rapport à l'administration de Donald Trump, qui a quand même compliqué les relations transatlantiques, c'est le moins qu'on puisse dire, pendant 4 ans. Donc je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de problèmes qui vont se poser dans les 12 ou 15 mois à venir au sujet de la ratification de ce texte, parce que notamment au Parlement européen, vous avez de nombreuses voix, je crois que vous en aviez à ce micro il n'y a pas longtemps.
La semaine dernière, j'avais 6 eurodéputés, effectivement, et aucun d'entre eux n'envisageait. 6 eurodéputés français représentant les 6 groupes parlementaires, et aucun d'entre eux n'avait l'intention de signer cet accord. On va y revenir, mais effectivement, ce n'est pas parce qu'il est signé qu'il va passer, qu'il va entrer en œuvre.
Alors, il ne faut pas non plus voir les choses entièrement négativement. C'est vrai que la Chambre de commerce européenne en Chine, par exemple, se réjouit de cette affaire.
C'est normal. Son job.
Alors, elle est quand même, je ne dirais pas, dirigée par des grandes entreprises allemandes. Mais bon, le président est allemand. Il est d'ailleurs tout à fait remarquable. Et il y a un certain nombre de grosses entreprises allemandes qui bénéficieront directement finalement de cet accord sur les investissements, notamment dans l'automobile.
Daniel Schröder, on a compris que l'urgence c'était Angela Merkel qui était elle très pressée de signer cet accord. Alors c'est vrai que l'Allemagne a présidé la présidence tournante de l'Union européenne entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année 2021, que la relation entre et le renforcement des relations entre l'Union européenne et la Chine était une des priorités de cette présidence allemande. Il devait y avoir un grand sommet à Leipzig qui a été annulé à cause du Covid. En tout cas, Angela Merkel, il semble bien, comme nous l'a expliqué Philippe Lecor, qu'elle était, elle, très pressée de signer cet accord.
Oui, effectivement, il paraît que c'était vraiment son objectif, et donc l'objectif de tout le gouvernement allemand. Ils ont déclaré ça assez tôt, au début de leur présidence de l'Union européenne, qu'ils allaient travailler pour les relations, pas germano-chinois, mais vraiment les relations entre l'Europe et la Chine. Il y a un point important à ne pas oublier, c'est que le sommet de Leipzig qui a été prévu pour le mois de septembre avait notamment l'objectif de réunir les 27 chefs d'État et de gouvernement autour de la table et avant de travailler pour une approche commune de l'Union européenne. Donc, c'est un élément important qui reste un projet d'avenir parce qu'il y a aujourd'hui une meilleure ou bien un meilleur échange stratégique sur le défi que représente la Chine pour l'Europe. Mais il reste beaucoup de détails à discuter et notamment les intérêts économiques ne sont pas les mêmes dans tous les pays de l'Union européenne. Et l'Allemagne est parmi les pays qui a peut-être les intérêts économiques les plus importants. Et donc, à mon avis, il y a beaucoup de critiques de la position allemande qui est justifiée parce que on aurait pu attendre l'arrivée de l'administration ou du gouvernement américain au pouvoir. L'argument qu'il y avait cette dynamique dans les négociations et la Chine a fini par faire des concessions, je ne suis pas convaincue qu'on ne les aurait pas eues au mois de janvier. Je pense c'était vraiment un objectif politique à compléter avant la fin de la présidence allemande de l'Union européenne. Et aujourd'hui, la question clé, c'est non seulement la ratification au Parlement européen, mais si jamais le traité entre en vigueur, la question est vraiment comment est-ce qu'on peut assurer que, notamment le volet des droits de l'homme, sur le travail forcé que vous avez évoqué, Daniel, que ces règles soient respectées par la Chine.
Alors, effectivement, il y a très peu de contraintes. Alors, je ne résiste pas à vous faire cette remarque. Est-ce que Angela Merkel a sacrifié les Ouïghours pour BMW, Mercedes et Volkswagen?
Je pense que ce n'est pas si simple parce que l'Allemagne a, vis-à-vis chaque partenaire difficile, comme la Chine, comme la Russie, toujours une double approche. Et je pense que c'est vrai, c'est non seulement une excuse, mais c'est une vraie politique à la fois d'avoir des liens étroits en matière de l'économie, mais en même temps d'utiliser les contacts que l'Allemagne a pour renforcer notamment l'approche basée sur les valeurs européennes, notamment les droits de l'homme, etc. Mais il est vrai que ces derniers mois, notamment sur la Chine, l'Europe aurait pu faire mieux et l'Allemagne n'était pas toujours en première ligne à s'exprimer le premier. Et donc je pense, à mon avis, c'est aussi une des questions dans la relation transatlantique. Est-ce que le président Biden va pousser les Européens à être plus forts et plus explicites sur leurs attentes vis-à-vis de la Chine?
On va évidemment voir cet aspect des choses un petit peu plus tard dans l'émission. Marc-Julien, je voudrais que vous, non pas refaire toute l'histoire, mais dans les relations que l'Union européenne a avec la Chine, elles sont doublement déséquilibrées déjà d'un point de vue commercial. La balance commerciale est très favorable à la Chine dans ses échanges avec l'Europe. Et puis, deuxièmement, dans le deuxième déséquilibre en matière d'investissement, la Chine est l'un des pays les plus fermés au monde, à l'inverse de l'Europe, qui est l'une des entités les plus ouvertes aux investissements étrangers. Et lorsque une entreprise européenne, par exemple, veut investir en Chine, elle se heurte à bien des difficultés. Il lui faut, par exemple, systématiquement un partenaire chinois. La Chine réclame la plupart du temps un transfert de technologie. Et puis, à cela s'ajoutent bien des difficultés au quotidien, sans parler des secteurs qui sont évidemment fermés aux investisseurs européens. Aujourd'hui, cet échange est extrêmement déséquilibré en faveur de la Chine, Marc-Julien.
Oui, vous avez tout à fait raison, et c'est justement l'objet de cet accord, et ça me permet de rappeler aussi que l'origine de cet accord, qui je le rappelle, a été les débuts des négociations, enfin, les négociations ont démarré il y a 7 ans, il y a eu 35 sessions de négociations depuis ces 7 dernières années, pour arriver à l'accord de principe qui a été signé. Et à l'origine, c'est une demande des Européens. C'est justement les déséquilibres que vous venez de décrire qui poussaient les Européens à engager la Chine, à négocier cet accord pour justement rétablir, pour ouvrir plus le marché chinois aux investissements européens et réglementer davantage, rééquilibrer, donner plus d'équité dans les relations commerciales entre la Chine et l'Europe. Donc c'est pour ça que malheureusement cet accord-là a été signé dans un contexte on ne peut plus mal choisi, puisque vous l'avez rappelé dans votre introduction, il y a eu la 2020, c'est l'année du Covid-19 avec une absence totale de transparence de la Chine. Il y a eu ensuite la diplomatie du masque, la diplomatie du loup guerrier en Europe, la loi sur la sécurité nationale, toutes ces révélations sur le Xinjiang. On parle quand même de stérilisation forcée, de travail forcé. Et au beau milieu de ce contexte, une semaine après les révélations sur le travail forcé au Xinjiang, cet accord est signé. Et finalement, ce qui est dommage, c'est que à l'origine, comme je le disais, on était demandeurs de cet accord, et il est tombé au plus mauvais moment. Il a offert une opération de communication triomphante à la Chine, alors qu'en Europe, ce qui aurait pu être célébré comme une victoire ou victoire relative, en réalité, a créé encore plus de dissensions au sein de l'Europe, alors qu'en réalité, à l'origine, nous étions à l'initiative de cet accord. Donc finalement, ce qu'on y gagne, ce qu'on y perd, ce qu'on y gagne, on ne sait pas encore, puisque cet accord, comme vous l'avez rappelé, n'est pas ratifié, et ça va prendre beaucoup de temps s'il est ratifié un jour. Mais en termes de communication et en termes de discussions, de dissensions au sein de l'Union européenne, le bilan n'est pas très positif.
Alors, pas très positif d'un côté européen en termes de communication et en tout cas de bilan. Long Zhang, c'est tout l'inverse côté chinois, car cet accord, il a été salué comme une grande victoire de la Chine dans ses négociations avec les Européens.
Évidemment. Vous avez dit que je parle du point de vue chinois. Je dois dire tout de suite, moi je suis aussi universitaire français.
Je veux dire que vous avez un regard chinois sur la marge de l'Europe, hein. Mais vous n'êtes pas le porte-parole de Xi Jinping, hein. On est bien d'accord.
Ça, vous avez tout à fait raison. Peut-être que ça représente justement cet avantage que j'ai le double regard. Je comprends peut-être mieux que certains ce que se passe dans leur tête, hein, en fonction de toutes ces affaires. Évidemment, c'est une victoire aux yeux de Pékin. Je dis que le pouvoir de Pékin dans ce contexte-là. Pékin essaie de diviser l'Occident entre l'Europe et les États-Unis, et aussi au sein de l'Europe, essaie de diviser aussi des Européennes pour tirer davantage ses intérêts. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, hein, dans votre émission à l'époque, j'ai dit qu'il faut que les Européennes se réveillent rapidement. Hein, on peut plus continuer dans cette situation-là. Je constate avec satisfaction que voir les Européennes sont maintenant plus ou moins réveillées face à la Chine.
Alors, mais on peut noter par exemple que l'agence de presse Chine Nouvelle n'a pas fait référence aux demandes européennes concernant la lutte contre le travail forcé. Par exemple, les autorités chinoises se sont félicitées de cet accord, mais elles n'ont pas mentionné la contrepartie que les Européens demandent aux Chinois et qu'évidemment les Européens ont mis en évidence dans leur communication.
Vous savez qu'ils jouent tout le temps ce genre de double langage, hein, double jeu. Il ne faut jamais oublier la Chine, le gouvernement monopolise l'accès des informations. C'est tout le temps en fonction de leurs intérêts, selon le contexte, qu'ils manipulent les informations face aux Occidentaux, face aux Chinois. C'est tout le temps qu'ils jouent le double jeu. Malheureusement, en Occident, on se tombe souvent dans ce genre de piège. Parfois, par exemple, en Occident, il y a beaucoup de gens qui sont contents de ce discours multiculturalisme, multipolaire, etc. Le problème, c'est que de gauche à droite, il y a certains Européens par un sentiment, pour des raisons historiques ou réelles, anti-américaines parfois. Quoi que ce soit, que Pékin a raison, le Washington a tort. Et parce qu'on défend cette multipolaire, etc. Le problème, c'est qu'il ne faut pas jamais oublier, Pékin, est-ce qu'il accepte ce genre de discours ce soir? par exemple en Chine, il tient aussi le même discours, l'accès de marché pour les étrangers égalitaire pour les entreprises privées civiles, ou du point de vue politique, on respecte ce multiradisme politique pour tout le monde. Non, c'est pas vrai. C'est là le gros piège que en Europe, parfois, on a cette tendance qu'on aime bien écouter ce genre de discours prononcé par Pékin. Là, ça pose un problème.
Merci, on a bien compris le double discours de Pékin, des dirigeants chinois. Alors, Philippe Lecor, Long Zheng nous disait, mais voilà, il faudra qu'un jour l'Europe se réveille. Alors, quand l'Europe se réveillera, ou l'Europe s'est-elle déjà réveillée, Philippe Lecor?
Ben, justement, enfin, elle s'est réveillée. Il y a à peu près un an, il y a 10 mois, en avril 2019, lors de la sortie d'un document qui était une sorte de rapport sur les relations entre la Chine et l'Union européenne, et qui avec le fameux triptyque, donc ce que les experts appellent le triptyque, c'est-à-dire trois différents qualificatifs pour définir la Chine en tant qu'Européen. Donc le premier qualificatif, c'est partenaire, le deuxième, c'est concurrent, et le troisième, c'est rival systémique. Cette façon de décrire la Chine, on ne l'avait pas connue. Vous savez que l'Union européenne, enfin alors les Chinois adorent les anniversaires, donc c'était le 45e anniversaire des relations entre l'Union européenne et la Chine. Des relations qui sont essentiellement commerciales, économiques. Pourquoi est-ce qu'on signe un accord commercial? Parce que c'est plus facile, enfin un accord sur les investissements, pardon, parce que c'est quand même plus facile que de signer un accord sur des sujets politiques. La Chine a rejoint les accords de Paris sur le climat. On n'est pas sûr qu'elle a toujours respecté ce qu'elle avait promis, même si elle vient d'annoncer qu'elle allait travailler à zéro émission de carbone en 2060. Toujours est-il que les Européens ont revu leur copie. Et c'est ça qui est un petit peu étrange avec la signature de cet accord sur les investissements, c'est que c'est un petit peu un pas en arrière par rapport aux deux pas en avant qui ont été faits lors de cette déclaration. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que sur les 27 membres, et à l'époque il y avait aussi le Royaume-Uni, il y a eu une unanimité. Vous savez que la Chine a planté un certain nombre d'arbres en Europe de l'Est et en Europe centrale en particulier. Il y a ce qu'on appelle le 17+1, qui est un groupe d'États d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, qui vont d'ailleurs se réunir la semaine prochaine, virtuellement, avec la Chine. Hein, c'est 17+1. Entre parenthèses, Daniela Schwarzer parlait du 27, du sommet à 27. C'est 27+1. C'est toujours un groupe de pays et la Chine. Les Chinois font la même chose avec les Africains qu'ils rassemblent régulièrement à Pékin avec les chefs d'État africains. Concernant cet accord, cette déclaration de 2019, il y avait une unanimité. Je ne suis pas sûr que l'accord sur les investissements, il révèle une telle unanimité, parce que vous avez eu beaucoup de déclarations disant, premièrement, l'Allemagne critique le 17+1, par exemple, et nous dit, il faut pas parler à la Chine directement. Or, qui a fait cet accord sur les investissements? La chancelière d'Allemagne, présidente en titre du Conseil européen, et la Commission européenne, dirigée par Madame von der Leyen. Monsieur Charles
Michel. Ça paraît évidemment un peu contradictoire.
Oui, et d'autant plus, si vous voulez, que il est clair qu'il y a un certain nombre de problèmes aux yeux des Européens. Vous avez la place des sociétés d'État chinoises, qui sont maintenant les maîtres du jeu, en tout cas pour ce qui est des investissements chinois à l'étranger. En Chine même, la part du secteur privé a pris une plus grande importance. Vous avez les problèmes de propriété intellectuelle. Vous savez qu'après l'entrée de la Chine à l'OMC, les usines de contrefaçon se sont mises à pulluler assez vite. J'étais moi-même en Chine à l'époque pour cette maison. Et donc, je crois qu'il y a un certain nombre de risques, hein, alors sans parler du travail forcé, etc., et de l'Organisation internationale du travail et des conventions que la Chine s'engage à signer, mais on ne sait pas très bien comment ça va être fait.
On peut signer sans appliquer, évidemment, c'est ce que fait souvent la Chine.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Quelle place pour l'Europe entre la Chine et les États-Unis? Nous sommes avec Philippe Lecor, enseignant-chercheur à l'ESSEC et à la Harvard Kennedy School, avec Daniela Schwarzer, directrice de la DGAP en ligne de Berlin, avec Marc Julien, chercheur et responsable du secteur Asie à l'IFRI, avec Lung Zhang, professeur en civilisation chinoise à l'université de Cergy-Pontoise. Alors, un accord de principe sur les investissements, contesté, on l'a dit déjà, par les eurodéputés, par le Parlement européen, et aussi qui importonne beaucoup les États-Unis. Et pour cela, nous allons faire un petit détour par la rédaction du Courrier international. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Pour le site américain Politico, le dossier chinois risque, par ricochet, d'affecter les relations entre l'Union européenne et les États-Unis, qui commencent pourtant tout juste à revenir à la normale, en tout cas si l'on peut dire.
Oui, il va sans dire que l'arrivée au pouvoir de Joe Biden s'est accompagnée d'un ouf de soulagement à Bruxelles. Enfin, se disait-on, l'Union européenne et les États-Unis vont pouvoir avancer ensemble sur un certain nombre de dossiers. La régulation des réseaux sociaux, par exemple, et la taxation des géants du numérique, sans parler de la question des données personnelles. Et il y a de quoi être optimiste. Le nouveau secrétaire d'État, Antony Blinken, est un europhile convaincu, tandis que le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, appelle de ses voeux une relation de confiance plutôt que de défiance envers les alliés américains. Suivez son regard. Mais selon le site américain Politico, un dossier risque de venir abîmer la nouvelle impulsion donnée à la relation transatlantique, le dossier chinois, bien sûr, et plus précisément l'attitude à adopter vis-à-vis de la deuxième puissance économique mondiale. Alors certes, Joe Biden n'entend pas poursuivre la même politique agressive que son prédécesseur Donald Trump vis-à-vis de la Chine, mais l'un de ses objectifs reste tout de même de contenir les velléités expansionnistes du Parti communiste chinois, et il entend le faire de manière multilatérale avec les alliés des États-Unis. Donc, Union européenne en tête. Dans ce cadre, Washington a grincé des dents fort, très fort en décembre lorsque Pékin et Bruxelles se sont entendus sur un tout nouvel accord d'investissement. Le problème, nous dit Politico, c'est que cet accord sino-européen limite la capacité de Bruxelles à peser sur Pékin, étant donné que les intérêts économiques prennent le pas sur le reste. Aux yeux de l'administration Biden, il n'existe aucun vrai contrôle dans le texte sur la question du travail forcé et aucun réel mécanisme non plus pour faire respecter les engagements pris par Pékin en matière de droits de l'homme. À Washington, continue Politico, on pourra sans doute se rassurer en se disant que de nombreux diplomates européens sont du même avis et beaucoup d'eurodéputés aussi d'ailleurs. Mais même si le Parlement européen torpille le texte lors de son examen futur, Biden aura tout de même du mal à embarquer l'UE tout entière dans une position commune face à Pékin, conclut Politico. Berlin, par exemple, voudra continuer, coûte que coûte, à maintenir un accès au marché chinois pour les voitures allemandes, et ce, quel que soit le nom du ou de la successeur d'Angela Merkel en fin d'année.
Merci Sacha Mitchell, Courrier International, l'Hebdo et courrierinternational.com, le site. Marc Julien, Donald Trump avait mené une guerre économique contre la Chine en multipliant les droits de douane, les interdictions diverses et variées, et Joe Biden à sa manière, certainement plus courtoise, mais avec autant de fermeté, a bien l'intention de mener cette même politique. Et Joe Biden compte ou comptait beaucoup sur le soutien de ses alliés, en premier lieu des Européens. Il risque d'être déçu ou pas. Puis évidemment, je poserai aussi cette question dans un instant à Daniela Schwarzer.
Non, je ne pense pas qu'il sera déçu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'analyses qui disent qu'en signant cet accord, c'est un pied de nez que l'on pose aux États-Unis. Je ne vois pas ça comme ça. On parle toute la journée d'autonomie stratégique, d'indépendance de l'Europe, etc. Les États-Unis ne nous ont pas attendus ni consultés pour signer la phase one du deal entre les États-Unis et la Chine. Ils ne nous ont pas consultés pour lancer une guerre des tarifs sur la Chine, alors que l'Europe est impactée par cette crise. Donc, je ne pense pas. Au contraire, en fait, même on pourrait même dire que l'Europe a posé des jalons de négociations avec la Chine qui pourraient être repris ou imités par les États-Unis. Et en fait, je pense aussi que pour analyser la relation entre l'Union européenne et la Chine, depuis la fin du mois de décembre, on l'analyse seulement à l'aune de l'accord qui a été signé. Mais je pense qu'en fait, on gagnerait en fait à prendre un peu plus de recul. Et pour aller dans la ligne aussi de ce que disait Philippe précédemment par rapport au rapport de la Commission européenne de 2019 qui qualifiait la Chine de rivale systémique, il faut prendre conscience que depuis 2019 et énormément depuis 2020, la relation entre l'Union européenne et la Chine est plutôt très mauvaise et va de mal en pis. Donc cette relation, c'est une défiance de plus en plus forte, hein, une absence totale de confiance, entre, en tout cas de l'Union européenne vers, vers la Chine. C'est aussi des, une position et un discours qui se raffermit énormément du côté européen. Je pense à Ursula von der Leyen, dont le discours sur la Chine est de plus en plus clair et affirmé, mais aussi Joseph Borrell, qui est le représentant pour les affaires étrangères de l'Union européenne, qui a signé un certain nombre de tribunes dans des médias européens et internationaux, dans des think tanks européens, en disant qu'il fallait retrouver le discours de la puissance, qu'il fallait être de plus en plus ferme et que la Chine et l'Europe n'avaient pas, ne s'entendaient pas, n'avaient pas les mêmes définitions et les mêmes valeurs, la même définition du multilatéralisme, des droits de l'homme, etc. Donc, si on prend juste un petit peu de recul avec ce qui s'est passé le 30 décembre, en réalité, les derniers sommets, et en particulier celui du 14 septembre, le discours d'Ursula von der Leyen devant le Parlement européen, le discours de l'État de l'Union, ont toujours été vers un plus de fermeté et plus d'exigence vis-à-vis de la Chine. Donc là, effectivement, il y a toute une discussion, un débat qu'il faut avoir sur cet accord. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, est-ce qu'il est souhaitable ou non? Mais je crois qu'en fait, dans les semaines et les mois qui viennent, on va revenir en fait à cette relation qui est très très consensuelle en Europe. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a plus de dissension entre les États membres sur le fait que la Chine peut représenter une menace en termes de valeurs, en termes d'intérêts économiques, etc. Cette position-là, elle est très consensuelle, elle est de plus en plus consensuelle. Même, par exemple, des pays comme l'Italie qui s'était engagé dans les nouvelles routes de la soie font marche arrière. Des pays très mercantilistes comme les Pays-Bas, aujourd'hui, demandent à voir que l'Union européenne ait une position plus ferme sur la Chine. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut, si on recule un peu la focale, en fait, je crois que le constat est tout autre. Et juste un petit point sur l'engagement, sur le travail forcé, il n'y a pas d'engagement. L'engagement de la Chine, c'est à travailler vers une éventuelle ratification du traité international sur le travail forcé.
Il n'y a que les Européens pour croire qu'il y a un engagement, hein, j'ai bien compris. Daniela Schwarzer, entre la Chine et les États-Unis, il y a l'Europe, et au sein de l'Europe, il y a l'Allemagne qui est évidemment le premier pays sur le plan commercial, le pays le plus peuplé, et l'Allemagne qui joue un rôle le pivot, parce qu'elle a évidemment salué l'arrivée de Joe Biden et à une renaissance possible de l'Alliance Atlantique, et puis elle est à l'origine de cet accord de principe sur les investissements. Est-ce que, comment l'Allemagne se voit et comment elle se voit comme leader des positions européennes pour trouver une juste place, un juste équilibre entre les États-Unis d'une part et la Chine d'autre part?
Pour commencer avec la Chine, l'intention de l'Allemagne, c'est vraiment de réunir d'une manière politique les pays membres autour d'une stratégie commune. On a bien parlé des intérêts économiques qu'a l'Allemagne. Ce sont aussi d'autres pays qui ont ces intérêts économiques. Mais l'Allemagne voit très clair, notamment ce triptyque qui a été évoqué, que la Chine est à la fois un partenaire, un concurrent et aussi un rival systémique. Et je veux juste ajouter un élément qui est assez intéressant, parce que quelques mois avant la publication de ce document stratégique européen, il y avait un document stratégique notamment de la Fédération de l'industrie allemande qui a évoqué justement ces trois caractéristiques de la Chine et qui a pris une position très forte sur la Chine parce que, et à mon avis c'est aujourd'hui un consensus à travers l'Europe, on n'a aucun intérêt à créer des dépendances de la Chine, à ne pas pouvoir faire peser nos approches, notamment en matière de droits de l'homme, mais aussi le cadre juridique que rencontrent les entreprises se place, etc. Et donc, c'est tout ceci pour dire que même si l'Allemagne a des intérêts économiques très prononcés, même le secteur industriel allemand soutient et a été le premier à le dire, qu'on a une stratégie très différenciée vis-à-vis de la Chine. Et deuxième point, juste pour renforcer l'élément européen dans tout cela, le point de vue allemand est qu'il faut arrêter toute possible division de l'Europe qui vient de l'extérieur. Et la Chine a été identifiée comme une telle force, comme la Russie. Tous les deux essayent par des différents moyens de diviser les États membres de l'Union entre eux. Maintenant, pour les relations transatlantiques, à mon avis, Berlin est à peu près sur la même page que Paris, notamment en reconnaissant qu'il y a aujourd'hui une vraie chance de relancer la relation transatlantique. Ça ne veut pas dire revenir à la situation avant l'arrivée de Donald Trump, mais c'est plutôt une reconnaissance que dans un monde qui a vraiment changé ces dernières années, l'alliance transatlantique reste importante. Mais en même temps, on a vu pendant les 4 années de Donald Trump à la Maison-Blanche, on a vu qu'une alliance militaire peut être remise en question, les relations économiques peuvent être détruites, etc., etc. Donc, dans cette situation, l'élément d'une certaine souveraineté européenne ou autonomie stratégique, comme l'appelle Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires internationales, ça devient vraiment un grand projet de travail pour les pays membres de l'Union européenne parce qu'on ne veut ni dépendance des États-Unis, ni dépendance de la Chine. On veut construire un triangle où l'Europe pèse.
Est-ce que ça veut dire, quand on parle d'autonomie stratégique, évidemment le concept qui domine en ce moment en Europe, ça veut dire qu'il faut être stratégiquement autonome à l'égard de la Chine. Juste petit exemple, alors c'est pas tout à fait la dimension de l'autonomie stratégique, mais les Chinois en termes d'investissement ont fait un investissement majeur en Allemagne en prenant le contrôle d'une entreprise qui s'appelle le KUKA, qui est une entreprise allemande de haute technologie, de robotique si je ne dis pas de bêtises, et les Chinois sont arrivés discrètement à prendre le contrôle d'une entreprise qui était justement très stratégique pour les Allemands et donc pour les Européens, Daniela Schwarzer.
Oui, et on voit cet événement comme très mauvais. Donc aujourd'hui, toute la discussion a beaucoup avancé, notamment sur le contrôle des investissements stratégiques. Et ce n'est pas une initiative très récente, mais ça, en fait, l'origine était encore pendant la présidence de la Commission européenne de Jean-Claude Juncker. C'est là que une procédure a été lancée qui oblige tous les États membres de l'Union européenne de mettre en place des systèmes de contrôle d'investissement étrangers. Et en France, en Italie, en Espagne aussi, en Allemagne, tout ça a été transformé en loi nationale. Et la crise du Covid a vraiment accéléré la discussion parce que tout d'un coup, à la fois, on a compris que si la Chine reprend plus rapidement que l'Europe ses forces économiques, il y a un risque accru que la Chine a l'argent pour acheter des entreprises affaiblies en Europe. Et deuxièmement, on a découvert que la notion du secteur de l'économie stratégique doit être pensée d'une manière beaucoup plus large. Aujourd'hui, ça s'entend presque naturellement que le secteur de santé fait partie des secteurs stratégiques. Et donc, aujourd'hui, à mon avis, on est beaucoup plus réaliste en Europe et beaucoup plus prudent face à la Chine.
Je voulais donner la parole à Lung Zhang, mais Philippe Lecor m'a dit qu'il voulait réagir sur ce que vous venez de dire, Daniela Schwarzer.
Oui, je serai très bref.
D'un mot.
De two fingers, comme on dit. D'une part, je pense qu'en Allemagne, il y a un débat entre différentes factions, si j'ose dire, de l'industrie allemande. C'est-à-dire que vous avez les grosses entreprises dans l'automobile qui, clairement, et dans la chimie, par exemple, qui veulent continuer à investir en Chine parce qu'ils croient au marché chinois. Mais vous en avez d'autres dans la haute technologie. Vous avez cité la robotique ou les semi-conducteurs, où clairement, on pense que la Chine est un danger pour la technologie allemande et pour l'avenir de l'Allemagne. Et juste un tout petit dernier point sur l'autonomie. Alors j'emploie le terme d'autonomie et non pas d'autonomie stratégique, parce que je pense qu'il faut faire la différence. Autonomie stratégique, c'est la défense, c'est la souveraineté, c'est la sécurité. Autonomie, c'est autre chose. C'est l'autonomie, par exemple, économique, c'est l'autonomie numérique, si elle peut avoir lieu, mais peut-être qu'elle aura lieu dans la 5G. Et c'est un petit peu ce que les Européens, je pense, ont essayé de faire, je ne suis pas sûr qu'ils vont y arriver, avec cet accord sur les investissements, c'est d'être autonome par rapport aux États-Unis. Mais autonomie stratégique par rapport aux États-Unis quand on n'en a pas les moyens, et en termes de défense notamment, je crois que c'est autre chose. Et ça, les Chinois en sont conscients.
Alors justement, Lung Zhang, comment la Chine voit l'Europe comme un élément à maîtriser dans sa confrontation avec les États-Unis, comme un maillon faible qu'il faut utiliser dans cette conquête du monde? Comment la Chine voit l'Europe? D'abord, est-ce qu'elle voit l'Europe dans son intégrité, ou est-ce qu'elle voit essentiellement un pays comme l'Allemagne, qui est évidemment le premier partenaire commercial économique de la Chine en Europe?
Moi, il faut que je dise tout de suite un mot. Vous parlez de comment la Chine voit l'Europe, voit ce monde. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être, on doit faire attention aussi pour analyser qui est cette Chine. Hein. Maintenant, la Chine est aussi plus Chine. Et les Chinois sont divisés aussi par de différents points de vue. Par exemple, sur cette affaire de l'accord d'investissement, de signature, c'est qu'en Chine, il y a une partie des gens très pour le gouvernement, étaient très fiers, hein, pas un sentiment nationaliste. Ah, tous ces Européens sont cyniques, ils pensent que gagner un peu de sous de notre part, donc c'est bien fait. Et il y a l'autre part, il y a d'autres parties, il y a des gens critiques, un peu de libéraux, et sont très déçus de cette attitude européenne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et aujourd'hui, c'est que par rapport à l'émission qu'on a faite il y a 2 ans, j'appelais, il faut les Européens réveiller. Maintenant, on dit que les Européens sont réveillés, tant mieux. Le problème, maintenant, il faut comment on prend dans tous ces paramètres, mieux analyser la situation. Là, je pense que c'est une grande tâche à faire. Je trouve que on a d'un côté, on manque un peu de vision, stratégie en bien établir moyenne, long terme vis-à-vis de la Chine. Et ça, regardez bien de l'autre côté de l'Atlantique. Maintenant, les Américains sont en train de mener une discussion très importante concernant la stratégie américaine en long terme, comment vis-à-vis de la Chine dans les années à venir. Et donc, moi, je pense que les Européennes, le moment est venu aussi. L'Europe a besoin de ce grand départ, en même temps réfléchir bien comment établir une stratégie complète et surtout raffinée, en même temps en prenant compte de tout tas de possibilités de paramètres, en même temps de certaines choses que parfois on ignore. Par exemple, on doit essayer de comprendre quelle sera la réaction quand l'Europe agir de telle ou telle manière, de la part de l'Europe, de Pékin, aussi de la population, des jeunes, tout ça, tout ce genre de choses. Je pense que c'est le moment à venir. On doit d'un côté avoir une stratégie bien faite, en long terme, mais en même temps, du point de vue de tactique, il faut avoir renforcer notre connaissance plus raffinée pour mieux tester la température en Chine de manière ciblée pour réagir. Pékin à ce genre de stratégie. Pékin a une longue stratégie vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de l'Europe. En même temps, Pékin aussi a certains plans d'action. Et là, sur ce point-là, je crains que l'Europe, si on réagit pas bien sur ce plan-là, on sera perdant sur plusieurs aspects.
Marc Julien, ce que vient de nous expliquer Long John, c'est que la Chine savait donner du temps au temps, savait établir une stratégie, prenait un cap et s'y tenait. Ça avait évidemment l'air un peu plus confus chez les Européens, même s'il y a une prise de conscience, hein, comme les uns et les autres, vous l'avez dit. Mais quelle est la marge de manœuvre de l'Europe à l'égard de la Chine, qui est en train de devenir la première puissance économique au monde? Ce sera autour des années 2030, quelque chose comme ça. Il y a tout de même une interdépendance des économies, il y a une dépendance de l'Europe dans bien des domaines, les batteries par exemple, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, le numérique, etc. Alors, quelle est vraiment la réelle marge de manœuvre de l'Europe à l'égard de la Chine? Et puis, question subsidiaire, est-ce qu'on peut faire confiance à la Chine, un pays qui ne respecte pas sa signature, on l'a vu à Hong Kong, qui se réclame du multilatéralisme, mais qui dans le même temps balade les enquêteurs en ce moment de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé à Wuhan. Voilà. Quelle est la marge de manœuvre de l'Europe, selon vous?
Alors, la question de la marge de manœuvre de l'Europe est très, très importante et je pense qu'elle est souvent sous-estimée. Souvent, on sous-estime, nous, Européens, la capacité qu'on a, la voix de l'Europe, etc. Je pense, en réalité, qu'il faut prendre conscience que l'Union européenne est un passage... La Chine a besoin de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la deuxième puissance économique mondiale, c'est un marché de 500 millions d'habitants à revenus moyens élevés. Donc pour les exportations de matériel informatique chinois, par exemple, ou d'infrastructures de 5G, etc., c'est un marché absolument prioritaire et dont la Chine ne peut pas se passer. Je rappelle d'ailleurs qu'aux États-Unis, un certain nombre d'entreprises du numérique comme Huawei, ZTE, sont interdits sur le territoire américain. Donc c'est un très gros marché qui leur est impossible, dont ils n'ont plus accès. Donc l'Europe devient d'autant plus importante. Et donc c'est pour ça que souvent, voilà, on imagine les possibilités économiques que l'on a en termes d'exportation vers la Chine ou d'investissement en Chine, mais peut-être qu'on ne regarde pas suffisamment les opportunités que la Chine a en Europe et des opportunités qui lui sont absolument nécessaires. Je rappelle aussi que la Chine essaye depuis des années et de plus en plus de changer de modèle économique, d'un modèle économique qui est porté vers les exportations, enfin qui repose sur les exportations, à un modèle économique qui repose sur la consommation interne. La Chine a énormément de problèmes à atteindre cet objectif et donc elle a toujours besoin absolument des marchés étrangers pour exporter des technologies, des biens manufacturés, etc. Et donc l'Europe, à ce titre, est très importante. Donc je pense qu'il faut reprendre un petit peu confiance et avoir conscience de ces avantages-là pour mieux les utiliser comme des leviers dans les négociations avec la Chine. Et puis sur la question de la confiance, qui est une question très importante aussi, effectivement, je pense que même s'il y a un réveil en Europe, mais un réveil en fait qui prend son temps, qui est un peu lent comme beaucoup de choses en Europe, c'est une bureaucratie lourde, et même si je pense, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait vraiment une véritable prise de conscience en Europe, et particulièrement en 2020, les choses prennent du temps. Et par exemple, comprendre aussi la trajectoire politique de la Chine, c'est-à-dire vers où se dirige la Chine, qu'est-ce que la Chine de Xi Jinping ? Il faut, je pense, dire les choses et dire que la Chine est sur une trajectoire qui est véritablement totalitaire. Et donc, ça a beaucoup d'implications au niveau politique, au niveau économique, au niveau militaire, etc. Et donc, ça, il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Il faut avoir conscience. Et pour aller dans la ligne aussi de Lun Zhang, c'est de dire que on ne peut pas, en tout cas, il n'est pas souhaitable de gérer chaque dossier indépendamment, c'est-à-dire les investissements d'un côté, le commerce de l'autre, certaines régulations d'un autre côté avec la Chine. La Chine n'a pas cette approche. La Chine a une approche globale, elle a une stratégie globale vis-à-vis de l'Europe et du monde. Il faut absolument que l'Europe se dote d'une stratégie et d'une vision globale vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire que la Chine ne fait pas d'un côté un peu de commerce, un peu d'investissement, et puis d'un autre côté les droits de l'homme. Il faut avancer de front sur tous ces dossiers en même temps. Et donc, c'est sûr que la question, par exemple, du travail forcé des droits de l'homme, dans le cadre de l'accord sur les investissements, doit être l'une des priorités. Et peut-on continuer à approfondir le commerce et les investissements avec un pays qui fait du travail forcé, en particulier dans les champs de coton qu'on retrouve dans des entreprises de prêt-à-porter dans tous les centres-villes de France, de leurs magasins? C'est une question qui doit être vraiment au centre des considérations.
Et que doivent se poser tous les Européens? Philippe Lecor, Marc-Julien l'expliquait, la Chine est un pays qui a une vision impérialiste, autoritaire du monde, qui méprise notre système démocratique et qui est de plus en plus agressif, ce qui est quand même une nouveauté. Il y a 2-3 ans, on n'aurait pas dit ça de la Chine, de l'agressivité de la Chine, alors commercialement, technologiquement, mais aussi idéologiquement. La contrepartie, c'est que l'image de la Chine s'est beaucoup dégradée au cours de l'année écoulée, notamment auprès des Européens. Je fais référence à une étude de l'ECFR qui met en évidence que 62% des Européens jugent la Chine négativement contre 7% seulement qui ont une opinion positive de la Chine. C'était pas du tout le cas. La Chine, c'était un Eldorado, un grand marché. C'était tous les étudiants rêvaient de faire des études, d'un stage en Chine. On apprenait de plus en plus le chinois. L'image de la Chine est en train de se retourner et ça aussi, c'est important.
Oui, je crois que l'image de la Chine s'est profondément dégradée au cours des 12 derniers mois en particulier. Vous parliez de cette étude, mais il y a eu aussi Pew, il y a eu celle de l'IFRI notamment, pour laquelle travaille Marc-Julien. Elles disent toutes la même chose, c'est-à-dire que en gros, dans chaque pays, les opinions publiques ont perdu à peu près 10 points de positif vis-à-vis de la Chine. Donc, on se demande si finalement, ce pays a une telle a vraiment envie de plaire, hein. Et effectivement, ça devient de plus en plus difficile pour les entreprises étrangères de travailler en Chine. Alors ça, évidemment, ça va dans le sens de cet accord sur les investissements. Mais on dit, voilà, il faut faire des choses parce qu'il ne faut pas laisser ce marché de 1,4 milliard. Je suis d'ailleurs tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que l'Europe, avec ses 500 millions de consommateurs, est un attrait, est une mariée absolument formidable pour la Chine. Mais il y a aussi les 1,4 milliard de consommateurs consommateurs en Chine. La difficulté, c'est que on est face à un régime autoritaire, très autoritaire.
De plus en plus autoritaire.
Et surtout avec une sorte de régime qui a posé une chape de plomb avec ce que vous connaissez, c'est-à-dire les systèmes de surveillance et les intrusions des cellules du Parti communiste chinois dans les entreprises, y compris dans les entreprises étrangères, qui handicapent considérablement les entreprises expatriées. Et d'ailleurs, il y a de moins en moins d'expatriés, et ça devient de plus en plus difficile, sans parler de l'année qu'on vient de passer, avec le Covid, avec l'absence de vols entre la Chine et la plupart des pays. Les frontières sont fermées. C'est impossible, quand vous sortez, de revenir. Il faut passer 14 jours en quarantaine quand vous arrivez à revenir. Il n'y a pas de vol, très très peu, un ou deux par semaine entre la Chine et chaque capitale. Donc tout ça fait que, effectivement, pour les jeunes Européens qui apprennent le chinois, et autrefois on apprenait le japonais il y a peut-être 30 ans et ensuite on s'était mis à apprendre le chinois, eh ben on se demande si c'est vraiment utile, puisque finalement il y a aussi beaucoup de Chinois qui parlent les langues étrangères. On a des exemples autour de cette table de gens du monde antique qui parlent le français, c'est formidable. Mais il y a aussi beaucoup de Chinois qui parlent l'anglais, le français, l'allemand, que sais-je encore. Donc, il faut absolument que cette... Vous savez, les Chinois parlent toujours de win-win, de gagnant-gagnant, etc. Mais il faut vraiment que les Chinois comprennent que c'est dans les deux sens. Emmanuel Macron avait dit lors de son voyage, son premier voyage en Chine, les routes de la soie, ça doit être dans les deux sens. C'est pas unilatéral. Et ben c'est la même chose pour les relations bilatérales entre l'Union européenne et la Chine. Et ça, on ne le dit pas.
Sauf que la Chine est quand même très très loin de prendre conscience que les routes de la soie, pour reprendre votre exemple, ça va dans les deux sens. Et que évidemment une relation, ça va dans les deux sens et qu'elle doit être équitable. C'est, elle veut être win-win, gagnant-gagnant.
Mais c'est pour ça que cette idée de d'accord global, je pense, est la bonne. Le problème, c'est que l'Europe a une carte à jouer principalement. C'est la carte commerciale, c'est ces consommateurs qui ont certains moyens encore. Et en signant cet accord, on a fait quand même une erreur, c'est qu'on a donné un accord, une victoire symbolique à la Chine, 3 semaines avant l'inauguration du nouveau président américain, qui était prêt à réunir autour d'une table les démocraties, pas seulement les démocraties occidentales, mais aussi celles d'Asie Pacifique, d'Indo-Pacifique, on dirait maintenant. Et en fait, on a peut-être un peu grillé nos cartouches.
Mais cet accord est loin d'être signé, d'être ratifié. Enfin, il est signé, mais pas ratifié. L'histoire continue.
La route est longue. La marche sera longue, pour reprendre cette analogie chinoise. Et surtout, on parle de 2022, mais je ne suis pas sûr que 2022 soit la bonne date, sachant que là, il y aura la présidence française, mais que ça ne sera pas forcément dans ce premier semestre 2022.
Lung Zhang, vous voulez réagir en vraiment en quelques mots, s'il vous plaît.
Voilà, c'est tout simplement, vis-à-vis de la Chine, c'est impératif d'établir une bonne relation, d'avoir une stratégie commune avec Washington dans ce cas-là, que l'Europe ne risque pas un jour que tu gagnes maintenant un peu certains intérêts économiques. En long terme, tu seras gros perdant. Là, c'est ce que je crains.
Lung Zhang, merci. On a compris que si pour les Européens, si la Chine est un rival stratégique, les États-Unis restent un allié. Philippe Lecor, Daniela Schwarzer, Marc Julien et Lung Zhang, merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, RFI.fr, rubrique podcast, vous pouvez aussi vous abonner au podcast de l'émission via votre plateforme préférée. Et par exemple, Google, Apple ou Deezer. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescales, où que vous soyez, à Paris, Berlin, à Pékin, ailleurs dans le monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Autour de la question.
Chantal Leroux s'interroge avec...